d'ancêtre Inis de CPU, un opérateur mobile. La tour Eiffel, du chiffrement en poche et une classe de programmeuse. L'équipe aujourd'hui, Virginie, Gaël et Dascritch, et j'espère que tout le monde a mis son portable sur silencieux, ainsi que la fête au-dessus. Ouais, ils sont plein vernissage, ça va être compliqué. Bon, on s'en fiche, allez hop, c'est parti. Bonjour Virginie, tu vas bien ?
Bien et toi ?
Ah, magnifique ! Bonjour Gaël !
Salut Xavier, en direct du garage.
Ouais, il a fallu monter quelque chose en catastrophe puisque au-dessus c'est la teuf et franchement ça aurait été sympa de nous prévenir. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, tu écoutes CPU sur Radio Éphémère. Ceci est notre deuxième émission sur trois, dans lequel nous reprenons le rapport de santé d'Internet dans sa version 0.1, tel qu'établi, traduit et publié par Mozilla Foundation et distribué sous licence Creative Commons. En accord avec cette licence et à l'exception des parties musicales, ce programme est sous licence Creative Commons, avec attribution et partage dans les mêmes conditions. Nous ouvrons ainsi le volet innovation ouverte. C'est ouvert ? Comprenez ouvert comme utilisable par tout le monde sans devoir demander l'autorisation et exécuté au moyen de technologies transparentes et claires.
Une grande partie des projets intéressants accessibles via Internet existent grâce à la présence d'un système ouvert que chacun a le loisir d'utiliser librement à des fins d'apprentissage et de création. Les blocs de construction technique qui rendent cela possible, à savoir les normes au cœur du web telles que les langages HTML ou JavaScript, sont comme des briques Lego pour l'humanité. N'importe qui peut les utiliser et en faire des constructions. Il est facile d'oublier que les précédentes ères de la communication nécessitaient par exemple une coûteuse presse ou une licence de diffusion. Sans cette évolution, des plateformes comme Wikipédia, Facebook ou WordPress n'auraient jamais vu le jour et connu un tel essor.
Désormais, nous nous trouvons face à une question centrale. Est-ce que la structure ouverte d'Internet va résister ou s'étioler ? En matière de politique, les menaces se multiplient, par exemple dans le domaine du droit d'auteur. De plus, certaines nouvelles technologies liées par exemple à l'apprentissage machine ou à l'Internet des objets ne reposent pas sur le même modèle des normes ouvertes que le web. De grandes inventions sont encore imaginées dans des garages, des sous-sols, des chambres d'étudiants. Qu'il s'agisse de réseaux sociaux, de musique, de mèmes ou de mouvements politiques historiques, mais le risque existe que l'ouverture à laquelle nous nous sommes habitués diminue avec le temps.
Positif.
N'importe quel internaute peut créer un site web et tous les sites sont traités équitablement par Internet. Il existe désormais plus de 1,1 milliard de sites et ce nombre augmente chaque seconde. Les modes créatifs, de partage, de traitement et de distribution des contenus en ligne sont toujours plus nombreux. Creative Commons, l'organisation de licences ouvertes de propriété intellectuelle, estime que le web héberge plus d'un milliard de travaux sous licence CC qui encouragent la réutilisation des textes, de photos et de musique.
Les idéaux d'ouverture d'Internet font des incursions sur de nouveaux territoires, de la gestion d'organisation à la création de mouvements, en passant par l'organisation de gouvernement. De plus en plus d'informations publiques relatives au budget et aux statistiques sont partagées en ligne dans des formats ouverts, même dans des pays où la liberté d'expression est limitée. En outre, de nombreux gouvernements régionaux et nationaux, y compris en Inde, au Royaume-Uni et aux États-Unis, emploient des logiciels open source pour réduire les coûts et faciliter la réutilisation de logiciels entre les départements. Les logiciels open source constituent la plus grande partie des blocs de construction composant le web. La plupart des serveurs Internet du monde sont exécutés au moyen de logiciels tels que Linux ou Apache. Ils sont même une section essentielle des stratégies technologiques de grandes entreprises comme Google, Facebook ou Amazon.
Négatif.
En matière de réglementation, Internet est constamment menacé, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Cette année, en Europe, le web est à la merci des législateurs qui devront décider si la publication de liens vers des articles d'information sans autorisation doit être considérée comme une enfreinte au droit d'auteur. Certaines lois sur le droit d'auteur sont simplement désuètes par rapport à nos activités numériques actuelles. D'autres s'opposent dès leur création aux ambitions d'ouverture. Les réglementations relatives à la propriété intellectuelle négociées à huis clos dans le cadre d'accords commerciaux internationaux tels que le traité de libre-échange transatlantique, TTIP ou TAFTA, peuvent avoir des conséquences néfastes sur l'ouverture, la protection de la vie privée et les normes relatives aux données à l'échelle internationale.
Dans leur bataille contre le piratage, les grandes maisons d'édition et les détenteurs de droits de films, de livres et de musique en Europe et aux États-Unis utilisent des logiciels de gestion des droits numériques, en anglais DRM pour Digital Rights Management. Ces DRM restreignent les possibilités de copier ou de modifier des contenus protégés par des droits d'auteur dans des navigateurs web. Malheureusement, il s'agit d'un système fermé qui pourrait contenir des failles de sécurité et il peut limiter la liberté d'utiliser le contenu acheté selon ce qui est autorisé par la loi, par exemple en le visionnant sur l'appareil de votre choix. Si vous travaillez dans l'innovation, attention aux chasseurs de brevets, ces compagnies qui attaquent en justice des entreprises légitimes pour des sommes astronomiques sur des brevets douteux. Aux États-Unis, en Europe et en Russie en particulier, ils font trembler les développeurs de technologies et de logiciels. Mettre fin à la guerre des brevets et appeler à une réforme nous offrirait la possibilité d'aider un plus grand nombre d'innovations à prospérer plutôt que gêner leur développement.
Pronostic.
L'innovation ouverte sur Internet se trouve menacée par de mauvaises politiques, par la dévaluation des normes communes et par la fragmentation du web. Des milliards de nouveaux appareils se connectent à Internet dans les maisons, les villes, les espaces publics et privés, mais généralement dans ces appareils, les logiciels propriétaires sont préférés aux normes ouvertes et à l'interopérabilité, ce qui entraîne une fragmentation ainsi que des coûts de développement et des risques liés à la sécurité plus élevés pour l'Internet des objets.
Il est nécessaire de militer en faveur de pratiques open source, de transparence et de normes pour toutes les nouvelles technologies d'Internet, y compris la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine, données d'entraînement comprises. Ceci, entre autres, pour garantir qu'elles fonctionnent aussi correctement sur le web. Il faut que plus d'internautes, de gouvernements et d'entreprises intègrent la composante open source à leurs réflexions et à leurs pratiques. Si ce n'est pas le cas, elle se dégradera progressivement. Enfin, il faut également que davantage de personnes reconnaissent que c'est cela qui a permis toutes les principales réussites que nous attribuons à Internet aujourd'hui.
We'll be right back.
The James Taylor Quartet. Creation, Fanfare for a Sound Millennium. Et vous écoutez CPU sur Radio FMR.
À Oaxaca, au Mexique, 30 communautés rurales et autochtones ont désormais accès à la téléphonie mobile. Hors de portée des réseaux existants, ces communautés ont collaboré avec Rizomatica, une organisation à but non lucratif ayant pour objectif d'offrir aux populations les moyens de contrôler leur propre réseau mobile opéré par Internet. Depuis 2013, Rizomatica a contribué à l'installation de 17 antennes relais dans le sud du Mexique grâce aux fonds réunis par les membres de ces communautés, près de 7 500 $ par antenne, créant ainsi des réseaux cellulaires qui comptent près de 3 000 utilisateurs quotidiens dans des zones reculées. Environ 370 millions de personnes vivent dans des régions du monde ne disposant d'aucune couverture mobile. Et lorsque celle-ci existe, le prix des communications et des données reste inabordable pour plus de 2 milliards de personnes dans le monde, selon l'Union internationale des télécommunications, UIT. Au Mexique, Rizomatica a établi les exigences techniques pour de tels projets et participé avec des dirigeants communautaires à la création de l'association Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias. Le TIC. Celle-ci a pour objectif de fournir une assistance technique et juridique aux communautés souhaitant se raccorder à un réseau. L'association TIC a milité avec succès auprès des autorités mexicaines afin d'obtenir l'autorisation d'utiliser une portion du spectre des radiofréquences. Elle est devenue le premier service de télécommunication communautaire à se voir accorder une licence gouvernementale sous forme de concession sociale.
La législation est l'une des plus progressistes dans le monde,
explique Peter Blum, fondateur de Rizomatica, dont l'organisation a réussi à convaincre les autorités réglementaires de la nécessité des réseaux communautaires décentralisés. En effet, près de 50 000 villes, situées principalement dans des zones rurales et pauvres, ne bénéficient pas de couverture mobile au Mexique, car les grands groupes de télécommunications ne voient pas l'intérêt d'y investir. Se connecter à un opérateur peut se chiffrer en millions de dollars. Peter Blum a donc imaginé un réseau mobile propre aux communautés. La station de transmission de base émettant le signal mobile reçu par le téléphone est connectée à un ordinateur émulant la téléphonie mobile. Cette technologie rend l'intégralité du processus abordable en offrant la possibilité de se passer de matériel onéreux et d'utiliser n'importe quel ordinateur. La taxe mensuelle d'utilisation des réseaux, qui se monte généralement à 2 $ par personne, couvre le coût de la connexion Internet et de l'électricité. La rémunération d'un membre de la communauté en charge de la maintenance du réseau et 35% reviennent à l'association TIC pour l'assistance technique et réglementaire. Les communautés pauvres du Mexique sont accoutumées aux solutions décentralisées. Le gouvernement fédéral néglige depuis longtemps les infrastructures routières et de communication locale, obligeant les habitants à se débrouiller.
Ici, les communautés fonctionnent avec l'autonomie en tête,
relève Peter Blum. Le nom Rizomatica vient de rhizome, un terme biologique se référant aux plantes possédant un système de racines distribuées et interconnectées, plutôt qu'un système centralisé qui présente un risque d'échec élevé. Il illustre parfaitement l'esprit dans lequel l'organisation travaille. Aujourd'hui, Rizomatica est également actif au Nicaragua, en Colombie et au Brésil, où elle transmet ses connaissances et milite pour la création d'environnements juridiques et réglementaires plus ouverts.
Nous souhaitons nous engager sur le plan politique afin que les personnes qui rejoignent maintenant le réseau gardent un meilleur contrôle de l'écosystème d'Internet et de leurs activités,
explique Peter Blum.
When you're tired, when you're blue, call my name. When you need me, when you want somebody new.
James Royal, Call My Name. Vous écoutez CPU sur Radio FMR. Gaël Virginie Daskrich, je vous continue la lecture donc du bulletin de santé d'Internet. La réglementation européenne en matière de droits d'auteur présente de nombreuses incompatibilités avec notre mode de vie connecté. À Paris, la plupart des touristes débutent leur visite au même endroit. Ils vont admirer la Tour Eiffel de nuit, brillant de mille feux de haut en bas, éclairée par d'impressionnants effets de lumière. Cependant, peu savent que prendre une photo de ces effets de lumière et les partager en ligne représente techniquement une violation du droit d'auteur en France. Le cadre réglementaire européen en matière de droit d'auteur, rédigé au début des années 2000, protège certains trésors architecturaux et artistiques. Évidemment, le monument emblématique français figure sur cette liste. Lors de l'adoption de cette réglementation, les lettres et les SMS demeuraient les principales formes de communication, indique Dimitar Dimitrov, ambassadeur de la Wikimedia Foundation à Bruxelles. Bien entendu, cette époque semble lointaine.
Désormais, nous échangeons des photos,
ajoute-t-il. Chez les touristes qui explorent de nouvelles destinations, Instagram a détrôné les cartes postales.
Tous les pays ne disposent pas d'une liberté de panorama autorisant la capture et le partage de photos,
indique Dimitar Dimitrov. Résultat, un contenu aussi inoffensif qu'un selfie devant la Tour Eiffel ou la petite sirène de Copenhague devient illégal et les défenseurs d'un Internet ouvert voient rouge.
Cela représente une restriction à notre liberté d'expression. C'est incroyable que nos communications quotidiennes tombent sous le coup du droit d'auteur,
explique-t-il. Il va de soi que le cadre réglementaire européen en matière de droit d'auteur n'a pas uniquement des répercussions sur les photos de vacances, indique Dimitar Dimitrov. Il peut également avoir une incidence sur l'innovation et sur la circulation des connaissances. En effet, souvent, les droits d'auteur empêchent d'insérer sur Wikipédia des liens renvoyant vers les études scientifiques. En outre, les chercheurs peuvent se voir interdire les processus de collecte de données et de textes qui permettraient des progrès. C'est pourquoi Dimitar Dimitrov et une coalition d'universitaires, de professionnels des technologies et d'activistes partageant le même point de vue, y compris Mozilla, luttent pour une réforme. Des lois relatives aux droits d'auteur adaptées à nos activités en ligne.
Nous devons modifier le droit d'auteur pour qu'il soit adapté à la technologie et pérenne. Il faut s'assurer qu'il soit compatible avec la réalité de la vie quotidienne,
explique-t-il.
La tour Eiffel est un tipi, c'est une plume qu'il lui faut. La tour Eiffel est un tipi, une plume, pas un drapeau. C'est compliqué pour les Indiens vivre à Paris, si vous saviez, Paris n'a rien d'une prairie, on s'est trompé. Les chevaux ratissent le champ de Mars, il n'y a pas grand chose à brouter. Sous le bitume, c'est les pavés, où sont les prés? La tour Eiffel est un tipi, c'est une plume qu'il lui faut. La tour Eiffel est un tipi, une plume, pas un drapeau. Hier on pêchait le long des quais, des sacs plastiques et en vélo. L'unique poisson était fluo, saumon vaillant et déprimé. Et la tronche que tire aux eaux, l'unique bison qu'on a trouvé. Donne pas envie si vous saviez, c'est compliqué. La tour Eiffel est un tipi, c'est une plume qu'il lui faut. La tour Eiffel est un tipi, une plume par un dragon. En équilibre sur deux chevaux, on fait comment, nous les Indiens, sans un permis pour le galop. Souffle de braise est en prison, une tunique bleue l'a embarqué. Il allumait son calumet, rue de la paix à la station. La tour Eiffel est un tipi, on devrait pouvoir monter gratuit pour aller méditer en haut. Prendre le vent, pas des photos. La tour Eiffel est un tipi, c'est une plume qu'il lui faut. La tour Eiffel est un tipi, une plume, pas un drapeau.
Bastille, dans le grand cercle, nous dansions. On n'a pas entendu de sirène, toute la tribu dans un fourgon. La nuit c'est un drame, je vous jure, la lune se cache sous un voile. La ville est triste comme un mur, le ciel ici est sans étoiles. La tour est faite en hippie, c'est une plume qu'il lui faut. La tour est faite en hippie, une plume, un drapeau. Bison futé s'est fait flasher sur mon vaillant et déprimé. Souffle de braise est en prison, toute la tribu dans un fourgon. Pas un tambour, pas un bison. Ici les aigles, c'est des pigeons. Le ciel ici est sans étoiles. Le ciel ici est sans étoiles. Paris n'a rien d'une prairie. Paris n'a pas vraiment compris que la tour Eiffel est un tipi et que c'est une plume qu'il lui faut.
Philippe Etcha, la tour Eiffel est un tipi. Vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz, c'est l'émission CPU, l'émission Carré Petit Utile. Nous sommes Daskritch, Gaël et Virginie, et nous continuons notre lecture du rapport de santé d'Internet dans sa version 0.1, telle qu'établie, traduite et publiée par la Mozilla Foundation et distribuée sous licence Creative Commons. En accord avec cette licence et à l'exception des parties musicales, ce programme est sous licence Creative Commons avec attribution et partage dans les mêmes conditions. Nous couvrons maintenant le volet éducation à Internet. Qui peut réussir en ligne ? Il faut que chaque individu possède les compétences de lire, d'écrire et de s'impliquer dans le monde numérique afin qu'un nombre croissant de personnes ne reste pas consommatrice mais devienne créatrice et participe ainsi à la défense et au futur du web.
La technologie est plus facile d'utilisation aujourd'hui qu'il y a 20 ans, et cela a rendu Internet beaucoup plus accessible aux personnes de tout âge dans le monde entier. Cependant, la simplification des outils s'accompagne d'une moindre nécessité de comprendre le fonctionnement d'Internet. En d'autres mots, aujourd'hui, vous pouvez avoir des compétences numériques plus étendues sans réellement savoir ce qu'est le web ou d'où provient son contenu. Ce manque de compréhension constitue une crise occulte de l'ère numérique. Pour répondre à ce problème, est apparu le concept d'éducation à Internet universel, le fait que chaque individu devrait être en mesure de lire, d'écrire et de s'impliquer en ligne. Si nous souhaitons que les internautes comprennent comment participer au futur du web, comment rester en sécurité en ligne ou encore comment gagner leur vie avec Internet, nous devons nous assurer que chacun possède les compétences nécessaires pour une citoyenneté web saine.
Positif.
À l'échelle internationale, une grande attention est portée à l'enseignement de telles compétences dans les écoles. Les politiques éducatives et les programmes scolaires sont revus en tenant compte du fait que la connaissance des outils numériques est essentielle au développement économique. La programmation commence même à être intégrée au programme scolaire obligatoire dans une grande partie de l'Europe. Augmenter le nombre de jeunes adultes qui possèdent des compétences numériques figure parmi les objectifs de développement durable des Nations Unies et l'organisation relève désormais le nombre d'écoles qui possèdent des ordinateurs et une connexion Internet. Il est également réjouissant de constater que de nombreux enseignants informels favorisent l'innovation en matière d'éducation à Internet et à la programmation aux quatre coins du monde. On peut citer la EU Code Week et la New York Public Library Tech Connect, ainsi que des options gratuites et en ligne comme Code Academy et de nombreux autres. On remarque aussi une multiplication des programmes favorisant la diversité destinés aux communautés sous-représentées dans l'industrie technologique. Les programmes consacrés aux femmes sont les plus communs, parmi lesquels Girls Develop It aux États-Unis, Ladies Learning Code au Canada, AkiraShix au Kenya, Tech Ladies à Singapour et le Women's Coding Collective en ligne, pour n'en citer que quelques-uns.
Négatif.
La plupart des gens ne comprennent pas réellement comment fonctionne Internet à un niveau de base. Souvent, lorsque des politiques publiques mettent l'accent sur les compétences numériques, il s'agit de former les citoyens à mieux utiliser leur ordinateur ou à apprendre les bases de la programmation, pas de connaissances plus précises du web qui prépare les individus à se développer et à s'adapter dans un monde connecté. Par exemple, sans savoir comment vérifier des sources en ligne, les esprits, jeunes comme vieux, deviennent terreau fertile pour les fausses informations et les rumeurs qui entraînent des effets négatifs pour la société. Il existe une idée reçue que les habitants des pays du Sud, qui ont accès à Internet pour la première fois au moyen d'un téléphone portable, vont développer naturellement les compétences web nécessaires pour transformer leurs économies par le simple fait d'être connectés. Toutefois, peu d'éléments appuient cette hypothèse. Même les jeunes qui ont grandi avec un accès à Internet ne développent pas automatiquement de réelles compétences web. Les études montrent qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni, beaucoup de jeunes ne distinguent pas les contenus promotionnels des articles d'information ou les publicités des résultats de recherche. Les compétences web, y compris, mais sans se limiter à la programmation, gagneront en importance pour les emplois de demain, et cela à l'échelle internationale. Il est donc probable que nous soyons témoins d'une augmentation du fossé socio-économique entre les personnes bénéficiant de telles connaissances et les autres. Et une fois de plus, les femmes ainsi que les populations rurales et marginalisées sont les dernières à en bénéficier.
Pronostic.
Si nous n'agissons pas, nous nous retrouverons avec un Internet dont la plupart des utilisateurs resteront passifs et consommateurs en ligne plutôt que de devenir des participants actifs et des créateurs. Nous devons résister au creusement des inégalités entre une minorité informée du fonctionnement de la technologie et une majorité qui l'ignore. Il faut que tout le monde reconnaisse que l'éducation à Internet ne se limite pas à la programmation. Les gouvernements, les enseignants et les parents doivent maîtriser le domaine afin de favoriser les opportunités pour les jeunes de développer ces compétences. Les entreprises du secteur technologique doivent aussi réfléchir à de nouvelles manières d'inclure l'apprentissage et l'éducation à Internet dans le rapport entre les utilisateurs et leurs produits. L'éducation à Internet est devenue la quatrième compétence requise avec la lecture, l'écriture et l'arithmétique. Nous avons réalisé de grandes avancées vers l'éducation à Internet universelle au cours des 20 dernières années. Cependant, des engagements plus soutenus sont nécessaires pour garantir que nos compétences se développent à la vitesse de l'expansion du rôle d'Internet dans nos vies.
Fantastic Plastic Machine, You Must Learn All Night Long, remixé par DJ Swamp. Et oui, vous écoutez CPU sur Radio Éphémère.
Crypto Harlem enseigne la protection de la vie privée et la sécurité en ligne aux communautés noires de New York.
Son fondateur, Matt Mitchell, un éminent journaliste de données qui a travaillé pour CNN, AOL et The New York Times, a souvent, au cours des dernières années passées dans les rédactions, endossé un autre rôle que celui de journaliste ou d'ingénieur.
J'entendais les gens s'interroger sur le meilleur moyen de protéger des informations ou des sources,
se souvient-il. Trop souvent, les réponses obtenues étaient de piètres conseils. Il intervenait alors en proposant son expertise en sécurité numérique à des interlocuteurs toujours plus nombreux.
Généralement, après une telle discussion, un reporter passait et prenait des notes. Puis c'était le tour d'un autre. Le cercle s'est rapidement agrandi. J'ai alors réalisé que cela traduisait un réel besoin.
En 2012, peu de temps après la mort de Trayvon Martin, un adolescent noir non armé tué par balle en Floride, Matt Mitchell a ressenti le besoin d'élargir son audience.
J'ai pensé que je pouvais agir dans ma communauté, Harlem, pour aider les habitants à comprendre les questions de surveillance et de justice pénale.
Il fonde alors Crypto Harlem, un atelier de 3 heures à la Harlem Business Center sur Malcolm X Boulevard, au nord de Manhattan. Crypto Harlem offre une assistance et des conseils gratuits au sujet de la protection de la vie privée et de la sécurité en ligne. Matt Mitchell s'est notamment inspiré de la Crypto Party, un mouvement qui organise des événements dans le monde entier afin de sensibiliser le grand public à la cryptographie.
Imaginez une clinique consacrée aux questions de surveillance,
explique-t-il en la comparant aux cliniques dentaires mobiles de la ville qui proposent des soins dentaires dans les quartiers défavorisés.
Seulement là, vous venez avec votre ordinateur, votre téléphone et votre curiosité et nous répondons à vos questions.
Chaque session de Crypto Harlem rassemble une cinquantaine de participants, y compris des personnes âgées, des mères de famille et des étudiants. Les cours abordent souvent en premier lieu les bases de la protection de la vie privée et de la sécurité en ligne.
Nous étudions les avantages de la navigation avec Tor. Nous répondons à de nombreuses questions sur les dispositifs mobiles,
continue-t-il, soulignant que de nombreux membres de la communauté naviguent au moyen de smartphones, sans ordinateur portable ou tablette. Ainsi, Matt Mitchell enseigne le protocole OTR, l'utilisation de courriers électroniques chiffrés, avec d'autres mesures de sécurité pour mobile. Enseigner les mesures de protection de la vie privée en ligne à Harlem répond à une certaine urgence selon lui, car les minorités de la ville de New York sont souvent la cible de surveillance de masse. Micros, caméras de sécurité et dispositifs d'espionnage téléphonique sont présents à tous les coins de rue. Les tours de surveillance mobile sont monnaie courante et des projecteurs éclairent violemment les rues pendant la nuit. Par le passé, Matt Mitchell a enseigné la protection de la vie privée et la sécurité en ligne à des groupes qui considéraient cela comme des concepts abstraits ou se doutaient de la nécessité d'utiliser des outils de chiffrement.
Ce sont des questions qui ne me sont jamais posées à Crypto Harlem. J'entends plutôt des personnes me raconter qu'elles ne peuvent pas acheter un paquet de chips sans se faire regarder bizarrement.
Récemment, il a fait découvrir l'application de messagerie chiffrée Signal à une femme d'une 70aine d'années.
Elle imaginait que ce serait compliqué à utiliser pour elle. Mais après l'installation et quelques explications, elle était convaincue. En 10 minutes, elle envoyait des messages et passait des appels vocaux chiffrés.
Lorsque ses voisins comprennent en quoi consiste le chiffrement, ils reprennent confiance.
Être en mesure de s'exprimer sans se sentir menacé ou avoir peur, ça motive réellement les gens. My greatest fear, I fantasize. The days were long, the weeks flew by. Before I knew I was awake, my days were through. It was too late. We'll be right back. The Hunter, Cryptograms. Je t'expliquerai hors antenne, Virginie, ce que c'est qu'un cryptogramme. Vous écoutez CPU sur Radio FMR.
Pourquoi coder n'attire pas plus de femmes ? Conversation avec Mélissa Sarifodine, cofondatrice et directrice exécutive de l'organisation canadienne à but non lucratif Ladies Learning Code, par Kevin Sawaski.
Laurine, 11 ans, de Calgary, a lancé récemment son entreprise de robotique. Latasia, 12 ans, a développé une page web qui donne à réfléchir, dont le but est de lutter contre la violence à l'égard des femmes autochtones au Canada. Dans un monde où les STIM, les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et les programmes consacrés à l'informatique sont dominés par les hommes, Laurine et Latasia font l'exception. Elles possèdent un autre point commun, toutes deux ont étudié avec Ladies Learning Code. L'organisation canadienne à but non lucratif Ladies Learning Code, LLC, œuvre à aplanir les disparités dont les femmes sont victimes en ligne. Les données relatives à l'inclusion numérique sont souvent consternantes et démoralisantes. Dans presque tous les pays, le pourcentage d'internautes masculins distancie celui des internautes féminines. Du Japon à l'Allemagne, en passant par le Maroc, la Turquie, plus d'hommes que de femmes sont actifs en ligne. Ladies Learning Code souhaite que cela change. Dotée de 29 sections au Canada, l'organisation a déjà enseigné les langages HTML, CSS, Python, la conception web et d'autres compétences numériques à plus de 40 000 élèves, dont 92% sont identifiés comme des femmes ou jeunes filles. Mozilla s'est entretenu avec Mélissa Sarifodine, cofondatrice et directrice exécutive de Ladies Learning Code, quelques jours seulement avant le 5e anniversaire de l'organisation.
L'un des principaux objectifs de LLC consiste à promouvoir l'accès des filles au domaine des STIM. Considérez-vous qu'en plus d'être un groupe dédié à la formation, votre organisation est un groupe de défense de ces droits ?
Alors, on propose des programmes mixtes, même si les femmes et les filles restent clairement notre public cible, mais nous ne nous positionnons pas comme une organisation de défense de droits numériques. Toutefois, nous collaborons de plus en plus avec les parlementaires et les autorités locales pour avoir une incidence sur des problèmes systémiques. Mais il est clair que nous encourageons et défendons les femmes et la technologie. Mais ce n'est pas récemment que nous efforçons d'avoir un impact considérable à une plus grande échelle.
Rencontrez-vous souvent des filles qui partent du principe que coder, c'est une affaire de garçon ?
C'est effectivement le cas. Hier, par exemple, deux filles qui se trouvaient devant la classe ont indiqué qu'elles n'étaient pas capables de faire ce que leur était présenté. Nous leur avons demandé pourquoi elles pensaient cela. Nous nous battons contre cette idée répétée aux filles depuis si longtemps que les technologies s'adressent aux garçons. Les premières 40 minutes, elles montraient de l'intérêt, mais ne voulaient pas vraiment essayer. Cependant, à la fin de la classe, elles rayonnaient. Leur site web était superbe. Elles se souciaient beaucoup, beaucoup du style. Elles étaient très contentes et ne voulaient pas partir. Il faut peu de temps pour réaliser la valeur de la programmation. Nous le remarquons sans cesse dans nos programmes. Et d'ailleurs, tous les programmes développés spécifiquement pour les filles sont axés autour du pourquoi, pas comment le construire, mais pourquoi le construire.
Aux quatre coins du monde, de manière presque systématique, les internautes sont majoritairement des hommes. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette situation ?
À l'époque des premiers ordinateurs personnels, dans le domaine de la sémantique opérationnelle, il a été décidé d'inclure une composante de genre à la technologie, de la promouvoir auprès d'un groupe plutôt qu'un autre. Je pense que ce choix a eu une forte incidence sur le nombre de femmes qui se sont intéressées aux technologies. Les disparités créées sont indiscutables, les technologies sont tournées vers les garçons et le problème est systémique. Nous le remarquons dans notre communauté, les parents inscrivent leurs garçons à des camps technologiques mixtes, mais pas leurs filles. C'est un fait généralisé. Toutefois, je constate une évolution. Nous remarquons la popularité de nos programmes à travers le pays et nous n'arrivons pas à répondre à la demande grandissante. À l'échelle internationale, les programmes visant à encourager l'accès des filles aux technologies dès leur plus jeune âge se sont multipliés.
Entretien modifié et résumé pour des questions de clarté.
était une fois une petite fille princesse qui s'enroule dans les rideaux pour que tout soit encore plus beau.
Petite fille parle aux étoiles, petite fille rêve des comètes, petite fille passe dans l'espace, elle est sur notre planète.
Quand elle veut s'amuser, elle prend sa fusée, sa fusée, sa fusée. Technique, tes revolvers sont en plastique.
Petite fille jette des paillettes, petite fille stresse dans sa tête, elle voyage dans son télescope, et quand sa capsule se détache, la fusée part dans un flash. Orange, 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 orange.
Little Girl, petite fille de l'espace. Le groupe, c'est Ultra Orange. C'est fini. C'était CPU, le programme carré petit utile. On en a bien chié cette semaine. Oups, je devrais pas utiliser ce mot, mais en fait, vous vous rendez pas compte des conditions dans lesquelles on enregistre, c'était fun. Pour cette release, le contenu est basé sur le rapport de la Mozilla Foundation Internet Health Report, écrit par ses salariés et les bénévoles. Il a été adapté par l'équipe de l'émission Virginie Vandeville, Gaël Cérez et Dascritch. La release a été shippée avec les moyens techniques de Radio FMR depuis le fin fond de la cave pendant que ça danse au-dessus. L'intégralité du programme, les extraits, ses sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager.
Ouais, commenter.
Partager. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR en analogique, il est presque midi, nous cédons à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé. Et ceci dit, nous on va monter, on va gâcher et on va enregistrer la troisième partie, voilà. Et encore mille merci à la Mozilla Foundation et à Théo Chevalier quand même.
C'est sujet super intéressant.
Ouais, ça le fait. Pour une fois, ça nous change.
Qu'on est heureux de partager avec 5 auditeurs.
Ça m'agace parce qu'il y a 5-6 sujets en fait qui sont quasi. Qui étaient en préparation, en extension.
Bah, c'est bien.
Si vous allez sur le site, n'hésitez pas à vous cliquer sur les sujets.
Est-ce qu'il y a des gens qui commentent et qui réagissent?
Il y en a quelques-uns, ouais.
Ouais.
Bien. Allez. Sur les réseaux sociaux, ça compte pas.